Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Grand témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Christophe Nkolomoni Djibou, ancien directeur général de la radio nationale, de la radio-télévision nationale congolaise, ancien ADGA de la FIKIN, député national honoraire, membre fondateur du PPRD et l'un des compagnons de Laurent Désiré Kabila. Ça fait trop de titres, monsieur Christophe Nkolomoni. Bienvenue à Radio Kapi.
Merci beaucoup, c'est le devoir de servir la nation.
Vous allez bien?
Oui, nous portons bien.
Alors avec vous dans cet entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Kapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC sur la fréquence FM et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Vous nous parlerez de votre parcours politique, qu'est-ce qui vous a attiré en politique, mais également on va faire le point sur le 19e anniversaire de la libération du Congo par l'AFDEL. Quel héritage Laurent Désiré Kabila nous a-t-il laissé? Est-ce que son idéologie continue d'être perpétuée par vous qui êtes ses compagnons? On va en parler dans cette émission, mais avant, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand?
Oui, je suis né sur cette terre des hommes, dans un coin de la République, et notamment en territoire de Cabinda, actuel chef-lieu de la province de l'Omami, ma province natale. Je suis né, c'était le 30 juillet 1960.
C'était votre anniversaire le jour de l'indépendance.
Tout à fait. J'ai cette occasion de pouvoir saluer toute la nation congolaise de ce que Dieu a fait, que le destin m'a destiné effectivement à être fêté par toute la nation. Quand même on fête la fête nationale, par ricochet, nous sommes aussi fêtés, donc nous sommes célébrés. Et ça, c'est un hommage que je dois rendre au peuple congolais, à la nation congolaise.
Vous étiez à Cabinda, c'est là où vous avez grandi, vous avez fait vos études primaires secondaires?
J'ai fait mes études primaires à Cabinda même, à l'école primaire Saint-Willibrord, en son temps, comme on l'appelait. J'ai poursuivi les humanités techniques sociales au lycée de Bilan, qui est devenu à la suite l'Institut d'études sociales de Cabinda, de Kamukongo, ITESCA. Et après ça, j'ai poursuivi les études à Lubumbashi, où j'ai fait les sciences de gestion, notamment la gestion des entreprises. Je me suis orienté en graduat en gestion du personnel, organisation du travail, avant d'embrasser effectivement la licence en management, où je me suis spécialisé en finance, marketing et dynamique commerciale à l'université du Sepromat, à Lubumbashi même. Et puis, j'ai ajouté une agrégation à l'université de Lubumbashi, à Lubumbashi toujours. Et à côté de ce parcours académique et scolaire, j'ai ajouté beaucoup de formations libres dans les domaines religieux, dans les domaines sociaux et aussi politiques et syndicales.
Monsieur Christophe Nkolomoni, vous avez grandi dans quelles conditions?
J'ai grandi dans les conditions d'un enfant, d'un travailleur homme comme tous les autres hommes, dans un recoin de Cabinda, considéré comme étant un coin comme Bethléem, qui en fait ne représentait presque rien, mais qui était quand même riche, puisque ce coin a vu grandir des hommes importants qui, sans être nécessairement des notables de la République, mais des gens qui étaient adulés à pouvoir travailler et servir la République en entretenant leurs petits milliers. Donc je suis enfant d'un directeur de prison, d'une ménagère qui aimait bien servir les autres, qui était en fait une femme sage, ma mère, voilà.
Quel souvenir vous gardez de ce coin?
Le climat de mon coin m'a beaucoup marqué, et ce climat m'a permis d'avoir une bonne éducation, si bien que je me suis attelé à accompagner mes parents dans les travaux, et j'ai beaucoup... j'étais en quelque sorte le berger du troupeau de mon père. Mon père, ça a été aussi en même temps un éleveur de chèvres et de porcs. Et j'étais celui qui les nourrissait, celui qui suivait au moins cette bergerie-là. Et aussi, il faudrait dire que ma mère m'a appris le chant. J'allais au chant, j'ai fait le chant, j'ai appris certains travaux manuels et je me sentais beaucoup plus dans cette chaleur fraternelle et familiale à aimer les travaux champêtres, et aussi j'ai vécu dans une humilité très profonde.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Je déteste les désamours. J'aime l'amour du prochain. J'aime aimer l'autre, les servir et compatir. Je suis miséricordieux, voilà, comme je le Père est miséricordieux.
C'est quoi votre plat préféré?
Je grandis à côté de feu de manioc. Le pondou, je l'aime bien. Surtout quand il est mélangé au concombre. Et j'aime le poisson.
Marié?
Oui, je suis marié, père de 9 enfants.
Alors Christophe Colomoni, comment vous vous retrouvez en politique?
Déjà aux études, je vis les représentants du peuple, notamment les défilés que nous allions acquérir, applaudir. J'ai vu comment ils aimaient servir le peuple et j'ai compris ce qu'était être au service du peuple. Et j'ai commencé à dire à ma mère, à mes amis, que moi je vais être un député un jour. Et je crois, à partir de la troisième des humanités, j'ai commencé à nourrir cet espace. Et j'aimais aller aux meetings des hommes politiques. Et je sentais que la politique est un domaine par excellence pour servir le peuple et la nation.
Pour s'enrichir. Comme le disent certaines personnes.
Je n'entends pas des choses comme ça. Je n'ai pas vu des politiciens s'enrichir. J'ai vu quand même des gens accumuler des moyens et puis disparaître sans laisser des traces d'un homme prospère ou d'un homme riche. Donc on vient avec l'argent de l'État, on se met au service des autres pour rendre service. Et si en certains moments on pense confondre sa propre poche avec les caisses de l'État, je crois que la justice, ce sont des valeurs qui agissent dans la vie. Donc on ne vient pas en politique pour s'enrichir. D'abord, pour venir en politique, il faut avoir l'amour du prochain. Il faut voir le peuple vivre. Il faut partager la douleur du peuple. Et cela va vous motiver enfin d'assumer bien votre mandat.
Alors vous dites que c'est depuis la troisième secondaire, je crois, que vous avez commencé à aller dans les meetings des hommes politiques. Est-ce que en ce moment-là vous compreniez c'était quoi la politique?
À ce moment-là, je comprenais que la politique c'était en fait autre au service des autres et de la République. Puisqu'en fait, quand nous allions, tous les discours c'était que je vais faire ceci pour vous, je vais arranger notre village, je vais construire un pont, je vais demander qu'il y ait d'hôpitaux chez nous, je vais essayer de travailler à aider ceux qui ne sont pas mécanisés, à avoir leur mécanisation afin que leur salaire soit bien établi. Et j'ai compris que c'était des hommes qui se mettaient en lieu et place des autres afin de les servir et mieux les servir. Et cela m'a motivé. Et comme déjà de mon éducation, je comprenais qu'il faut toujours porter l'amour vers les autres. Il faut exprimer les dons de soi pour les autres. Et cela m'a beaucoup motivé. Je me suis dit, mais quelle est l'orientation la meilleure qui puisse me permettre de me rapprocher de cette vocation? Et c'est là où je me suis rendu compte que j'ai commencé à prendre goût. Et j'ai commencé à dire que non, je serai député. Et j'ai compris que pour être député, il faut aller aux élections. Et je me suis apprêté, je me suis organisé comme ça. Et pourtant, quand j'étais aux humanités, j'aimais beaucoup les droits. Et j'en avais beaucoup de capacités. Mais subitement, je me suis dit que j'ai fait autre chose. Et dans la profession, j'ai senti que j'étais plus motivé à entreprendre ce qui frappait le cœur de l'homme.
Et vous commencez la politique active en quelle année?
La politique active, je la commence en 2000. En 2000, puisqu'en ce moment-là, j'étais déjà en 1995 cadre dans une grande entreprise de la place, je ne fais pas de la publicité, à l'Abra Congo ex Inibra, à Kananga. Et de là, je me vois invité en Bujimaï, où j'évoluais pendant 5 ans. Et j'étais élu là comme délégué syndical. Et je me rappelle ce qu'un de mes directeurs de siège me disait, mais toi, ta place n'est pas ici, ta place est en politique. Puisqu'il m'a vu, j'étais un syndicaliste très actif. Et parfois, j'avais des prises de position en faveur des travailleurs qui mettaient mal à l'aise mon employeur, plus que même mon président syndical. Et là, chaque fois que j'entrais dans l'usine, les travailleurs se mettaient à applaudir. Et j'avais même reçu un nom. Par les travailleurs qui m'appelaient Boukolé, Boudia Boukolé. Et la force qui mange la force.
La force qui mange la force. Oui.
Déjà, c'est le surnom que les travailleurs m'ont donné à Loukélingue, en Bujimaï, à la brasserie. Et cela me motivait davantage à me priver et d'obtenir ce qu'ils attendaient. Et à rencontrer l'attente populaire. Et ça, ça m'a beaucoup motivé. Donc, en 2000,
c'est comme ça qu'en 2000, vous êtes engagé politiquement.
Je me suis engagé après Bralima. J'ai été nommé conseiller socio-culturel en charge des questions liées à la santé, à l'enseignement, à la culture, aux affaires au gouvernement des provinces du temps du mandat de M. Charles Okot, actuel ambassadeur en Chine. Et je suis parti de là et c'est dans ce cabinet que la cooptation des députés nationaux de l'Assemblée constituante et législative, Parlement de transition, me trouvera. Et pendant ce temps, j'évoluais dans des partis politiques comme les autres, notamment je n'ai évolué qu'à l'UDPS. Et après l'UDPS, c'est Jean Bassé, mon actuel parti.
Mais pourquoi vous avez quitté l'UDPS?
Bon, à ce moment-là, vous savez que la vie politique, c'est un terrain beaucoup plus actif. Et à partir du moment qu'on se rend compte que les motivations qui ont présidé à telle ou telle autre orientation n'étaient plus fortes, on peut se revirer autrement.
Quelle et motivation, surtout, par exemple, monsieur Colomoni?
Et surtout qu'il était là le moment où la révolution dont vous avez évoqué dans votre répertoire de thèmes à débattre venait d'apporter un vent nouveau qui, en fait, laissait prévoir une autre manière de voir les choses. Et nous avons réfléchi, nous sommes engagés jusqu'au moment où, en faisant partie de cette révolution, et nous avons fait partie des cadres qui ont réfléchi sur la mise en place de l'actuel parti, le PPRD, qui est mon parti.
Alors, donc, la vision de l'UDPS ne cadrait plus avec vos ambitions, votre vision à vous?
Oui, je ne dis pas que cette vision était mauvaise. Je dis que personnellement, m'assumant démocratiquement et politiquement, j'ai compris que je pouvais évoluer autrement dans un autre regroupement social politique.
Et c'est comme ça que vous avez quitté l'UDPS pour aller au PPRD. Vous êtes parmi les membres fondateurs de ce parti.
Oui, j'ai quitté l'UDPS, j'ai embrassé le PPRD, puisque en 2002, quand se pointent toutes les tractations politiques à San City, la composante gouvernement avait vite compris qu'il fallait y aller en composante politique, en force politique, pour soutenir en fait la vision. Et j'étais parmi ceux qui avaient été sélectionnés afin de réfléchir sur cette question-là. Et nous sommes réunis au centre Nganda, catholique Nganda de Kinshasa, pendant 3 jours, et nous avons accouché de ces partis à la suite de 3 journées de travaux très durs. Et nous avons mis en place une formation politique qui est le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Donc voilà pourquoi je dis que je suis membre fondateur du PPRD. Et cela se fait le 30 mars 2002. Et le 2 avril, nous avons acquis notre droit de cité, donc notre arrêté d'agrément au ministère de l'Intérieur.
Est-ce que ce n'était pas parce que vous vouliez accéder à certains postes ou à certaines responsabilités que vous avez accepté d'aller dans ce parti?
Bon, je ne suis pas de ceux-là qui donnent l'impression qu'occuper ou avoir des ambitions d'occuper un poste est un péché. Non, mais pourquoi sommes-nous nés? Pourquoi travaillons-nous? Pourquoi étudions-nous? Pourquoi faisons ceci, cela? C'est pour s'épanouir, c'est pour se promouvoir et c'est pour servir la République. Et on la sert encore davantage quand on est de poste de responsabilité. Puisqu'en ce moment-là, la réponse devient collective, elle devient publique. Elle devient une réponse qui est en fait notablement légiférée par les statuts publics. Donc, avoir des ambitions n'est pas un péché, mais c'est peut-être la manière de vouloir les avoir en vertu d'un quelconque intérêt égoïste, c'est ce qui est peut-être mauvais.
Et c'est grâce à ce parti que vous avez été nommé ADG à la FIKIN.
Je dois le dire, vous savez que les négociations politiques qui ont eu lieu et qui ont accouché d'un accord global inclusif à San City a consacré un principe dont nous ne savons pas nous débattre jusqu'à ce jour, donc le partage équitable, équilibré des responsabilités. Et dans ce cadre, il y a ce que ma famille politique a gagné et qu'elle a rétribué à ses membres dont je suis, et je me suis retrouvé comme administrateur, directeur général, adjoint à la foire internationale de Kinshasa, et c'était en 2008 à l'issue d'une audience du président de la République.
Mm-hmm. Après la FIKIN, on vous retrouve directeur général.
Oui, après 3 ans de prestation, je me suis retrouvé à la Radio-Télévision Nationale Congolaise comme directeur général.
Vous n'avez pas traîné à ce poste?
Oui, un mandat, on connaît quand on le commence, mais on ne peut pas définir quand il s'est terminé. Il peut prendre un jour, il peut prendre une éternité, limitée dans le temps bien sûr, mais ce qui est vrai et qu'il faut servir, et surtout bien servir, et ma conscience est tranquille, que j'avais fait ce que je pouvais faire en son temps.
Et pourquoi vous avez quitté ce poste?
Oui, j'ai quitté ce poste puisqu'en fait...
Vous avez été révoqué?
Non, je n'ai jamais été révoqué, puisque vous m'avez présenté comme directeur général, ancien directeur général.
Vous n'avez pas fini le mandat?
Oui, je n'ai pas fini le mandat puisqu'il a plu à celui qui a la qualité de considérer qu'en ce moment-là, je pouvais arrêter pour être destiné à autre chose. Et je suis là.
Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez transformé la RTNC en une chaîne du PPRD?
Bon, ça, il faut demander au peuple. Le public peut répondre. J'étais un mandataire de l'État. J'agissais dans les limites des statuts de cette entreprise. Je ne peux pas faire l'évaluation de mon propre travail, mais c'est que je sais que j'ai fait un effort pour que effectivement cette chaîne qui est publique, qui est un service public de communication, soit au milieu du village. Et je ne pense pas que
ça n'est pas avec les Congolais pensent, M. Colomoni.
Mais les Congolais, c'est toi et moi.
À votre époque, on dit qu'à votre époque, la RTNCT s'est devenue vraiment, ce n'était plus l'église au milieu du village, c'était devenu une chaîne du PPRD. L'opposition n'avait pas accès à cette chaîne. C'était devenu une caisse de résonance du PPRD.
J'ai un autre son de cloche que celui que vous donnez maintenant, puisque je le tire de la part des opposants eux-mêmes, qui à mon temps ont pu défiler dans cette chaîne, s'exprimer librement et volontairement. Et, bien sûr, j'encadrais les débats. Les débats n'étaient pas une opportunité pour les insultes, les injures, les attaques et porter atteinte aux autres. Et ça, je ne pouvais pas les tolérer. Mais je crois que le grand débatteur politique opposant, comme ceux de la majorité, sont passés, et même ces acteurs, les acteurs de la société civile, sont passés dans cette radio-là. Et je peux vous donner une preuve. D'un moment très fort, à l'occasion de la campagne de 2011, le président Kabila arrive à Goma. Le président Tshisekedi arrive à Goma, tous deux candidats. La RTNC a repris les reportages du président Tshisekedi de sa descente d'avion jusqu'à son lieu de meeting. Autant pour le président Kabila. Et pendant ce temps, c'était un débat dans une chaîne privée de la place qui montrait que Tshisekedi n'avait pas réuni du monde. Et quelqu'un appelle de l'Europe pour dire non, suivez la vérité sur la RTNC. Ce que vous dites, c'est faux. C'est un petit témoignage que je voulais donner pour vous dire que, de notre temps, nous sommes efforcés de nous approcher des attentes populaires et de faire en sorte que cette chaîne soit effectivement une chaîne du peuple. Et être une chaîne du peuple, ce n'est pas venir insulter l'autorité établie. Et ça, ça a été fait. Et la moralité a commencé à faire son retour dans cette maison.
Alors moi, je vais revenir sur votre éviction de la RTNC. Est-ce que ce n'est pas, c'était pas par rapport à la machinerie politique du PPRD que vous avez diffusé pendant toute une journée sur la chaîne nationale que vous avez été viré?
Mais la RTNC n'est pas comme votre radio où vous avez le plaisir de me recevoir. C'est une chaîne, un service de communication publique, comme je l'ai dit. Elle a un statut, elle a un règlement, elle est soumise à la loi du CESAC. Et si les choses ont été faites un peu en marge de ces lois et de ces règles, et que des mesures aient été prises, il faudra saluer que la bonne gouvernance est en train de faire son chemin.
Ça ne vous avez pas offusqué?
Mais quelqu'un
vous
qui...
avez essayé de plaire à votre parti politique, à votre autorité morale, mais malheureusement ça a mal tourné pour vous.
Et c'est justement ça l'essence de la patrie et le nationalisme. C'est accepter qu'en ce moment on soit aussi victime, pourvu que la collectivité puisse triompher. On a des intérêts comme un individu, mais il y a la perception et l'attente de la collectivité. Il faut laisser triompher l'intérêt de la collectivité. Et ça, c'est très important. Un homme qui ne sait pas se priver dans sa vie, ce n'est pas un leader. Un leader, c'est celui qui vient. On ne va pas en procès avec la communauté, ni avec la collectivité. On peut commettre des erreurs, c'est tout à fait normal, mais la vérité reste la vérité. L'absolu demeure l'absolu. Donc, en faire un procès, je ne vois pas l'opportunité. C'est que je sais que je remercie le président de la République qui a voulu que je sois là pour servir pendant un temps dur. Puis c'était un temps de la contradiction politique, un temps électoral. Ce n'est pas facile de concilier les uns les autres. Je ne fermais pas les yeux, ni moi ni les autres. Et je voudrais saluer toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent à la RTNC jour et nuit. Et je vous dis que j'y ai été, c'est être au four et au moulin. Et ce n'est pas facile. Et surtout quand il faudra donner la communication. Et vous voyez comment la hiérarchie du gouvernement est établie. Quand vous commencez par tel fait, tel ministre veut que ce soit son élément qui passe le premier. Ah, ce n'est pas facile d'arbitrer un tel match. Et vous n'accepterez pas d'être à la place de ces femmes et de ces hommes de la RTNC qui doivent non seulement faire bien leur travail selon les règles de l'art, mais qui doivent répondre et encadrer toutes ces humeurs et toutes ces intentions diversifiées.
Toutes ces pressions qu'on
toutes
conçoit.
Toutes ces pressions qu'on conçoit, et vous êtes du domaine, je ne sais pas vous la prendre. Donc ce n'est pas facile. Je crois que quelque chose de bien a été fait dans cette maison à notre temps. Et je salue ceux qui continuent. Je pense que c'est force de faire autant.
Alors vous faites quoi maintenant, monsieur Christian Colomoni, à part le fait d'être secrétaire exécutif national du PPRD? On ne vous a pas casé quelque part?
Vous dites bien que je suis secrétaire national du PPRD, ça suivi. Je suis dans le gouvernement du parti. Il n'y a pas mieux que ça.
Les entreprises, ça vous intéresse pas?
Je suis dans les structures qui décident de l'affectation des autres. Puisque je vous ai parlé de la manière dont les responsabilités sont partagées en vertu de ces principes de partage équitable, équilibré du pouvoir. Et si vous voulez devenir ceci ou cela, c'est votre famille qui vous les donne. Donc je suis au cœur de ces débats et je partage les avis.
Vous préférez rester là?
Je suis à la disposition de mon parti qui me dira où je dois encore jouer comme acteur dans la vie sociale. Je le ferai. Mais pour le moment, le parti a préféré que je puisse donner le meilleur de moi-même à mon parti et je continue à accompagner toute cette bataille politique au sein de mon parti et au service de la nation.
On va souffler un peu, Christophe Colomoni. Comment vous passez vos moments de détente?
Oh, je mets la musique et surtout la musique folklorique.
Sûrement.
Il faut dire que je retiens difficilement mon pas quand il s'agit de la musique folklorique, puisque j'entends tous les mois culturels vibrer en moi. J'aime la culture et je considère que c'est un moment d'exaltation. Exalter son appartenance. Et ça, c'est très important.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment? Une musique de chez vous, une musique de Miamor?
Oui, j'adore la musique de Miamor, j'adore la musique de War War International, Kabusha Walale, j'aime la musique de Bayuda, Kadiyoyo, Lilimba, L'Aigle du Kasai avec Prince Kabeyo Antumba. Et j'aime aussi la musique folklorique de Katanga et aussi celle de Bandundu. Ce sont des musiques que j'ai beaucoup fréquentées.
Donc en bref, vous aimez tout ce qui est culturel, le
culturel
folklore.
Culturel africain, voilà. Le folklore.
C'est l'identité même d'un peuple.
C'est l'identité même, je suis un panafricaniste.
Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment?
En ce moment ici.
Ouais. Qu'on peut vous proposer.
Ce qui peut bien sonner à vos oreilles, me fera aussi plaisir.
C'est pour vous qu'on va mettre
ça.
C'est
pour moi maintenant. Ouais. Ah, oui, je mettais quelque chose de ce dont je parlais. Et ça me fera plaisir.
Alors, on va demander à Bob, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, de nous trouver quelque chose pour faire plaisir à Christophe Colomoni que nous recevons aujourd'hui dans ce studio comme notre invité. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Ah, Denis Kambay, président aux fondations Grand Kassai. Yeah.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Moi, vous fait découvrir aujourd'hui Christophe Nkelomo Ninjibu. Il est ancien directeur général de la Radio-Télévision nationale congolaise, ancien ADGA de la FIKIN, député national honoraire, membre fondateur du PPRD, secrétaire actuellement les secrétaires exécutifs national de ce même parti. Alors, Christophe Nkelomo Ninjibu, vous faites partie des compagnons de Laurent Désiré Kabila.
Oui, je fais partie des compagnons de Laurent Désiré Kabila.
Ce 17 mai, on va fêter le 19e anniversaire de la libération du Congo par la FDL. Et qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de ces 19 ans? Est-ce que l'idéologie de Laurent Désiré Kabila a été perpétuée?
Oui, déjà ma présence est une action de perpétuation des Laurent Désiré Kabila, ces soldats du peuple qui nous a quittés dans les conditions que je ne veux plus rappeler ici pour ne pas remuer la plaie dans les ventres et dans les cœurs de tous ces milliers de Congolais, puisqu'il faudra noter que c'est un homme qui a été élu à sa mort. Il faudra noter que tout part déjà au 17 mai qui est la date finale, mais l'action comme telle politiquement, ou la révolution elle-même, a pris déjà corps dès 1996 à l'est de notre pays, dans les montagnes de Fizi, Obora, et Tingiting, et du côté de la province du nord et sud Kivu. La révolution a bien progressé. Elle a eu un appui de partenaires extérieurs, mais elle a été menée par les fils et filles du pays. Et à chaque étape, la révolution avait besoin d'autres bras. C'est ainsi que de Grand Kivu, en passant par Kisangani et d'autres entités du pays, la population congolaise a adhéré à cette révolution, à cette marche de libération dont vous faisiez allusion, pour la porter et se l'approprier. Et elle a fait son bon chemin jusqu'au moment où la révolution met son clou dernier à Kinshasa, le 17 mai 1997. Voilà comment cela est parti. Et là, on a vu tout un peuple s'élever comme un seul homme, faisant fi de ses couleurs politiques déjà d'antan, mais motivé par le fait d'un fait, accepter la tautologie n'est pas gratuite, puisqu'en fait, le peuple ayant marre de ce que nous avons tous désigné comme étant régime totalitaire dictatorial, a décidé de pouvoir d'abord se défaire de ce régime et de pouvoir renouveler les choses avec une nouvelle vision. Et cela fit un coup de chapeau au peuple congolais, qu'il s'agisse de cette portion des Congolais qui ont amorcé la révolution à partir des grandes montagnes du Grand Kivu jusqu'à Kinshasa, ceux qui ont accueilli cette marche et qui l'ont accompagné jusqu'à Kinshasa, coup de chapeau à eux, à ceux vivants ou morts, que l'honneur et l'hommage leur soient rendus.
Alors, une question de précision, Christophe Nkelomo Ninjibu, qui appelle son compagnon de Mouzé? Est-ce que ce sont ceux qui étaient avec lui dans le maquis, ou bien c'est tous ceux qui ont accompagné cette révolution?
Oui, il faudrait dire que cette indication demeure générique. Les compagnons de Mouzé ne doivent pas être ressentis comme étant un groupe spécialement structuré, compte tenu de la complexité des actes posés par les uns et les autres. Je vous ai dit qu'il y a eu un groupe de Congolais sous la houlette de Moïse Laurent Kabila qui est parti des grandes montagnes du Kivu. Et je vous ai dit qu'à chaque étape, la révolution avait besoin d'un appui et que les gens adhéraient et accompagnaient et chacun jouant son rôle selon ce qui était établi en ce moment-là pour pouvoir accompagner et à faire aboutir la marche. Donc, ces compagnons, vous les trouvez dès le début, quand ils étaient dans les maquis. Ces compagnons, vous les trouvez tout au long de la route. Ces compagnons, vous les trouvez à Kinshasa aussi. Et quand la révolution arrive ici à Kinshasa. Donc, ces compagnons ne sont pas affichés dans un camp pour dire qu'il s'agit de ceux qui ont concocté l'action dans les grandes montagnes en brousse, et non pas ceux qui ont embrassé la marche en cours de route et ceux qui l'ont accueilli. Ce sont des compagnons de Mouzon de Rokabé. Lui-même le disait très bien que c'était une action congolaise, une action portée par le peuple. Donc le peuple congolais entier est compagnon de Mouzon de Kabila. Le fait que les uns se soient retrouvés dans les rangs pour agir concrètement, effectivement et spécifiquement pour les besoins de la libération, ce n'est pas qu'ils portent un chapeau beaucoup plus large que tous les peuples congolais. Donc c'est une libération du peuple congolais, et voilà pourquoi vous avez lui-même l'appelé toujours la libération populaire, la révolution populaire.
Alors, lorsque ce mouvement, ce groupe s'est constitué, on sait que tous les compagnons de Laurent Désiré Kabila étaient dans la majorité présidentielle. Aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent dans l'opposition et d'autres qui sont restés dans la majorité. Est-ce que ça veut dire que l'idéologie recherchée ou l'objectif poursuivi n'est plus le même pour les compagnons de Laurent Désiré Kabila?
Non, il faudra dire que le fait qu'il y ait certains des nôtres qui ont quitté les rangs, ce départ ne signifie pas nécessairement qu'ils ont perdu leur qualité de compagnons de Mouzou, puisque j'ai noté ici que la libération, elle était celle du peuple congolais, elle était celle de tous ceux qui ont accompagné la révolution. En tant que telle, cette démarche, cette action politique est marquée par un fait d'histoire. La libération, la marche révolutionnaire est un fait d'histoire. Donc personne ne peut nier les actes qu'il a posés en ce temps-là, en tant que libérateur, en tant que compagnon. Il les demeure. Et puis il faudra revenir pour interroger les notions ou les dispositions de la loi organisant le fonctionnement des partis politiques ou des regroupements politiques dans notre pays. Vous savez que l'adhésion dans une formation politique est facultative. On y reste quand on veut, on peut aussi partir de cette formation quand on veut. La vie politique elle-même n'étant pas statique, étant relevant d'une réalité dynamique, bougeante, c'est normal qu'il y ait des gens qui viennent, qu'il y ait d'autres qui partent. Et ceux qui partent n'ont pas perdu la qualité des compagnons de Mouzou, puisque vous n'allez pas défaire ça autrement.
Ils n'ont pas perdu la qualité, mais vous n'avez plus le même objectif. Hein.
Oui, ils n'ont pas perdu la qualité, dès lors, nous n'avons plus le même objectif, nous n'avons pas plus non plus la même idéologie. Puisque là, ils ont changé de maison, ils ont changé de camp. Ça, c'est tout à fait normal.
Mais qui garde l'idéologie de Mouzou?
L'idéologie de Mouzou est gardée par le temple. Par la maison mère.
C'est-à-dire
dans laquelle nous sommes en train d'évoluer.
La majorité.
La majorité présidentielle, plus précisément le PPRD.
Alors qu'est-ce que vous pensez de ceux qui affirment que la RDC a de nouveau sombré dans les antivaleurs?
Écoutez, nous sommes une nation, puisque nous sommes la République démocratique du Congo. Effectivement, le devoir du gouvernement de la République, c'est effectivement de faire la promotion des valeurs. Mais on ne fait pas la promotion des valeurs là où il y a déjà les valeurs. Si ce travail est fait, ça signifie qu'en face, nous avons des comportements politiquement, moralement, et même socialement peu recommandables, et que le gouvernement doit s'atteler, les églises, les autres groupes sociaux moraux doivent s'atteler à combattre toutes les antivaleurs. Et ces antivaleurs, vous les vivez dans presque tous les domaines. Et chacun de nous, en tant que porteur de mandat social, public, a le devoir de se combattre. Ça, c'est un fait. Donc je ne peux pas dire qu'au jour, la République démocratique du Congo occupe la première place dans la société en ce qui concerne les valeurs. Nous avons nos problèmes et nous continuons à nous battre pour que nous puissions radier tous ces fléaux antisociaux de notre espace vital.
Alors Laurent Désiré Kabila revêt d'un Congo fort, uni. Est-ce que il peut se reposer tranquillement où il se trouve en ce moment, se disant je suis venu avec des idées, je suis venu avec une idéologie, ça a été perpétué. Voilà, le Congo aujourd'hui est en train de se mettre debout.
Oui, quelles que soient les faiblesses, Madame Kelly, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de considérer que M. Landévé Kabila peut se reposer tranquillement et fermement là où il est dans le carré des nationalistes. Puisque, en fait, la lutte continue. Et en face, nous avons des oppositions, nous avons des incontournables dans l'antagonisme interne et externe. Et il n'y a pas de raison à croire que la lutte n'est pas portée. La lutte, elle est portée. Quels que soient nos égarements, quelles que soient nos incartades, des fois décriées, ça c'est une réalité, que la lutte est portée des mains de maître de Joseph Kabila Kabang et de tous ceux qui l'accompagnent, puisqu'en fait nous nous sommes appropriés cette révolution. Il y a des choses qui devraient être faites qui ne sont pas faites.
Pourquoi ? À cause des querelles entre
oui,
politiciens.
Oui, ça fait partie des antagonismes locaux, internes. La recherche du leadership personnel et individuel.
C'est ce qui empêcherait au Congo de pouvoir émerger, évoluer.
Oui, vous savez que quand on est dans un parti politique et on se trouve au mandat de l'État, on y apporte ses propres habitudes. Mais on doit faire un effort de lire les éclaircissements de la loi publique pour mener l'action publique de manière que l'État le veut. Et ça, c'est un fait. Mais sur ces entrefaits-là, je vous dis bien qu'il y a des choses que nous avons faites, il y en a que nous n'avons pas faites, que nous efforçons de faire, et la vie politique, c'est cela, c'est les débats. Les considèrent que l'opposition est une lampe témoin pour ceux qui sont au pouvoir. Tout ce que l'opposition dit n'est pas nécessairement des choses à rejeter dans le ravin. Il faudra avoir un œil sélectif, un œil qui perçoit où se trouve le bon grain et essayer de le ramasser bien qu'il vienne de l'opposition et en faire la chose avec ce grain. Et ça, c'est très important. Donc, de ce côté-là, moi, je crois que M. Laurent Kabila peut se reposer calmement, que la lutte est poursuivie. Nous avons des erreurs que nous commettons, mais nous avons aussi des grandes choses que nous sommes en train de faire.
Alors, selon vous, ce 19e anniversaire devrait être célébré sous quel signe?
Je crois que ce 19e anniversaire doit être célébré sous le signe de la réconciliation nationale. Il n'y a pas plus grand que le Congo. Il n'y a pas plus grand que la nation. Partout dans le monde, regardez que toutes les guerres qui commencent de quelque forme que ce soit finissent toujours autour d'une table. C'est pour vous dire que la langue a un pouvoir, la parole a une puissance, le dialogue a une opportunité incalculable qui fait que les gens qui ont décidé de ne pas se regarder face à face peuvent le faire s'ils acceptent de dialoguer. Regardez ces deux chevaux tous ligotés par une même chaîne, chacun tirant en reculant derrière. C'est soit la chaîne se casse et c'est la rupture, c'est soit ils décident de se rapprocher et de communier en mangeant tous à la même touffe de carottes. Et la vie continue. Et je voudrais que vraiment que ce soit un moment intense où j'interpelle le président de la République en tant que représentant de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions de la République et des pouvoirs publics, et afin de faire en sorte que ce qu'il a initié puisse aller jusqu'au bout. Et je voudrais ici inviter tous les compatriotes congolais.
Ce qu'il a initié, c'est quoi?
C'est le dialogue. C'est le dialogue. Je ne vois pas pourquoi on peut trouver le dialogue comme étant une séance de sorcellerie. Dans un dialogue, on y vient avec son autonomie. On s'exprime de manière autonome. On adhère à une idée ou on n'adhère pas à une idée. Et on rentre en gardant sa souveraineté. Et ça nous permet de nous dire certaines choses en face.
Alors vous invitez tous ceux qui sont encore réticents à pouvoir vous rejoindre dans ce dialogue.
Oui, puisque nous avons besoin d'eux pour résoudre, et pour faire avancer le pays. Ni les si pauvres qui n'ont rien à donner, Mme Kelly, ni les si riches qui n'ont rien à recevoir. Nous devons nous débarrasser de l'estime personnelle. Nous devons nous débarrasser des extrémités dans notre manière d'agir et de penser. Le Congo a besoin de chacun de nous, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité ou de la société civile. Le Congo a besoin du paix que chacun peut apporter. Les intransigences, les radicalismes, l'égolatrie, si je peux me permettre, moi je suis un chrétien, l'amour extrême de soi-même ne peuvent pas aider le pays à marcher. Sinon, nous mettons le pays dans une position d'un crapaud qui avale saqué et ne peut plus donc avancer.
C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission, Christophe Kolomoni-Djibou. Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Un dernier mot, c'est saluer le travail cabal ensemble du peuple congolais qui a fait confiance au président Joseph Kabila Kabange. Il faudra noter, Roger, mais quand vous avez parlé de la vision de Mzé, vous avez parlé d'un homme qui rêvait d'un Congo fort, uni et prospère. Et c'est même la vision que porte Joseph Kabila Kabange. Puisqu'il y a des gens qui disent, nous ne voyons pas la vision.
Vous
la
dites vision, ça parce que vous êtes de sa famille politique.
La vision, c'est celle-là. Je sais que le président Tshisekedi porte une vision. C'est un homme de changement, un changement positif. J'approuve ça. J'en vois d'autres. Roubé Roy, Mbemba qui est en prison aujourd'hui, Kamere et tant d'autres. Ce sont des filles de ce pays qui portent des projets meilleurs pour cette nation. Mais maintenant, nous pouvons qu'exalter le projet de celui qui est aux commandes de la République pour que l'application ou la mise en application de ces projets puisse être un bénéfice pour chacun des Congolais, quelle que soit sa couleur politique. Pourquoi il veut un Congo uni? Mais il arrive au pouvoir en 2001. Il trouve un pays déchiqueté, déchiré. Il se met à le reconstituer. Voilà la vision. Il dit qu'il doit être fort, mais pour être fort, un pays est respecté dans sa capacité de pouvoir diffuser la peur aux autres. Il les reconstitue, il les réforme l'armée. Voilà une vision. Et finalement, il veut un pays prospère. Vous n'avez qu'à voir les chantiers, vous n'avez qu'à voir la croissance économique. Voilà cette inflation de trois chiffres ramenée aujourd'hui à deux chiffres. La réalité économique
qui n'est pas ressentie dans le panier de la ménagère ou dans la salle des Congolais.
Oui, la réalité économique étant flottante. Des fois, nous patinons, c'est tout à fait normal. Et un effort doit être fait par le gouvernement de la République qui dirige de main de maître les camarades Augustin Matatampoy, de sorte que cette performance, autant criée, puisse être une expression dans l'assiette du Congolais.
Merci Christophe Kolomoni, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes aussi directeur général de la Radio Nationale Télévision Nationale Congolaise, membre fondateur du PPRD. Actuellement, vous êtes secrétaire national exécutif de ce parti. Vous êtes l'un des compagnons de Laurent Désiré Kabila. Merci à Bob Landou qui était à la prise de son micro, Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.